L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture d'une... L'ouverture...
Je regarde s'ils sont présents, et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence, en permanence, en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé.
La télé.
Un matin.
Dans les cours de promenade.
Un matin.
Des miradors.
Un matin.
Des psychologues.
Un matin.
Salut. Vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. www.radiodio.org sur le net. Voilà, l'émission Papillon, une émission contre toutes les prisons et les enfermements, à destination notamment des prisonniers et prisonnières de la maison d'arrêt de la Talaudière, qu'on salue vivement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Salut à tous et à toutes.
Et voilà, et aujourd'hui on a un programme très chargé, donc je vais pas trop m'étaler tout de suite. Et puis Payoub, de quoi on parle aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui on va revenir sur un petit reportage qu'on a piqué à nos confrères, camarades de Radio Canu, qui revient sur une marche qui a eu à Givors par rapport au décès de Farid Lamouchi à Corba, à la prison de Corba. Ensuite, on va revenir sur le week-end qu'il y a eu, le week-end dernier, du son contre la prison, avec notamment toujours quelque chose qui est passé sur Radio Canu, une émission de l'Envolée. Donc on vous en dira un peu plus plus tard. Et ensuite, on va finir par une histoire sur le fait de porter plainte. Enfin bon. On verra peut-être, Elsa, tu peux nous en dire.
Voilà,
en gros,
on finira l'émission en parlant de comment porter plainte par rapport aux conditions de détention. Voilà, en gros, enfin là c'est présenté sommairement, on vous en parlera plus à la fin, notamment étant donné que la maison d'arrêt de la Talaudière, comme plein d'autres, est insalubre, n'est-ce pas ?
Tout à fait, tout à fait. Eh ben, on va commencer tout de suite. Donc, on va revenir là-dessus.
Ça enchaîne,
hein. Ouais, non, là, faut pas rigoler, hein, aujourd'hui. On va attaquer tout de suite avec, un reportage qui a été fait par Radio Canu sur une marche qui a eu lieu à Givors le 22 janvier, en fait, suite à un décès, le décès de Farid Lamouchi à la maison d'arrêt de Corba. Donc, ce monsieur-là, il est mort le 12 janvier. Et suite au bout de 2 jours d'incarcération, il est mort, alors déclaré suicidé par l'administration pénitentiaire. Mais bon, la famille a plus que des doutes par rapport à la version officielle donnée. Ben, au bout de 2 jours d'incarcération, il se serait pendu. Donc il faut savoir que c'est bon, pas mal de choses sont dites dans le reportage, mais bon, ces conditions de garde à vue ont été assez chanues apparemment, et du coup, il faut savoir que c'est la deuxième fois en 2 ans qu'il y a quelqu'un de ce quartier là, Givors, du quartier des Verves à Givors, qui meurt en détention. Il y avait eu Fakradine il y a 2 ans, qui était mort à Saint-Quentin-Falavier. Et on avait reçu Nabila, sa sœur, qui était justement, qui était en pleine démarche par rapport pour faire, éclater la vérité, savoir ce qui s'est passé, parce que voilà, c'était la thèse de l'AP, c'était le suicide, et eux n'y croyaient pas. Donc ils interviennent un moment dans le reportage et ils reviennent un peu où ils en sont 2 ans après par rapport à leur plainte contre l'administration pénitentiaire. Donc on va enchaîner tout de suite et puis on refera quelques petits commentaires par la suite. Donc je vais lancer le truc.
S'il y a des coupables, il faut qu'ils payent. Farid, si tu nous entends, ta famille, ton épouse, tes frères, tes sœurs, et tous ceux et celles qui t'aiment, ne t'oublieront jamais, mon frère. Nous te disons à bientôt, frérot. Repose en paix.
Ça devait être une marche silencieuse. Mais la colère l'a emporté sur le silence quand les quelques centaines de personnes sont passées devant le commissariat samedi après-midi dans les rues de Givors. C'était une marche hommage à Farid Lamouchi, mort en prison début janvier dans la maison d'arrêt de Lyon-Corbat. Suicide, nous dit l'administration pénitentiaire, mais personne ne veut y croire. Surtout pas sa famille, à l'image de ses nièces Faïza et Lydia, qui nous refont la chronologie de cette sombre histoire.
Il a été soupçonné, parce qu'il est innocent, parce qu'il n'est pas passé au tribunal, rien du tout, vu que son affaire était prévue pour le 3 février, là. Il a été soupçonné d'avoir cambriolé un bar, dont le bar aurait été volé dedans, une cafetière, 80 euros, et 2-3 bouteilles de whisky.
Du coup, suspecté de ce vol dans le bar, ils l'ont arrêté. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est
passé ? Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en garde à vue. Donc en garde à vue, ils se sont bien acharnés sur lui. Ils l'ont tapé pendant 48 heures.
Ils ont fait deux descentes.
Deux perquisitions à son domicile. Deux perquisitions, et j'insiste parce que c'était deux perquisitions horribles. Comme je vous ai dit, ils ont tout cassé. La moitié des meubles chez ma tante, ils sont cassés. On a dû y jeter le linge par terre. La cuisine, je vous dis même pas retourner. Les fauteuils déchirés à coups de couteau.
Ah, les frigos ouverts.
Les papiers, tout avec par terre. Je vois pas ce qu'on cherche dans des papiers. Je suis désolée, une perquisition, des papiers par terre, les photos par terre. C'est dessous à sa femme, vous imaginez ?
Vous faites une descente, vous cassez pas tout, vous déchirez pas des poufs, des canapés,
deux jours de reprise,
vous cassez pas des cadres, vous humiliez pas sa femme, vous allez pas la chercher sur son lieu de travail à menotter devant tout le monde. La pauvre, elle travaillait en intérim à Kiabi, ils sont venus la récupérer avec des menottes là-bas pour lui demander un témoignage, mais ils ont quelqu'un à l'appeler. Et de toute manière,
terre,
ils ont
déchirée.
Dit à sa femme, tu le reverras plus, ton mari.
Ils lui ont dit comme ça, ma tante. Hein. Ils sont partis la chercher à 7 à son boulot. Ils l'ont menottée. Ils lui ont dit, si tu restes avec lui, tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu vas voir ce qu'on va lui faire à lui aussi. Il y a deux avocats qui l'ont vu en garde à vue, qui ont dit que le pauvre, dans l'état où il était, rué de coups, il avait des griffures de partout. Ils se sont bien acharnés sur lui pendant 48 heures. Après, ils l'ont monté au tribunal. Au tribunal, mon oncle était très énervé, très nerveux par rapport à sa garde à vue qui s'était super mal passée. Donc à ce moment-là, le juge a demandé un bilan psychiatrique. Donc en aucun cas, il aurait dû aller à la maison d'arrêt de Corbat. Ce n'était pas sa place, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas.
Le juge a demandé... il passe en comparution, on demande un bilan psychiatrique et là on le met quand même en préventif sans le juger à Corbat.
Jusqu'au 3 février, normalement, parce que c'était le 3 février, sa date prévue, qu'ils avaient repoussé l'affaire jusqu'au 3. Le juge avait demandé un bilan psychiatrique et du coup il s'est retrouvé en prison. Donc,
dans une cellule seule.
Hein. C'est un peu bizarre quand même.
Il y a eu beaucoup de fautes également de la maison d'arrêt de Corbat. Il y a beaucoup de choses qui nous ont dites parce que le directeur nous a reçus de la maison d'arrêt. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas claires et que même lui ne savait pas quoi nous répondre. Les choses se sont très mal passées. On ne peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que mon oncle, dans tous les cas, ne voulait pas mourir ce soir-là. Il ne voulait pas mourir et il ne s'est pas tué. C'est pas possible.
Non.
On le sait, on le connaît, il y a plein de preuves. Il a écrit des lettres juste avant à ma tante. Et il était très bien, et il demandait des numéros de téléphone, il lui disait de faire parloir, d'envoyer des mandats. C'est pas la première fois qu'il va en prison, mon oncle a l'habitude de la prison, il a fait des plus grosses peines. Donc c'est pas en deux jours qu'il se serait suicidé. Hein.
Je sais pas comment ça s'est passé là-dedans, mais en tout cas on est en colère et on lâchera pas, faut qu'on sache ce qui s'est réellement passé.
Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à dire, maintenant on attend, on va voir comment ça va se passer avec la justice, on va voir ce qu'ils vont nous apporter, et puis on verra bien. Hein. Mais en tout cas, le commissariat de Givors a des torts et la maison d'arrêt de Corbat a des torts. Donc j'espère que la justice sera faite et qu'ils seront punis.
Regardez tout le monde qu'il y a. Hein,
mais c'est pas la première fois que ça se passe. C'est pas le premier suicide qu'il y a en prison. Il y a la famille Zaraï devant, leur frère Fakradine. Combien de personnes on va perdre encore avant que ça cesse tout ça ? Faut briser le silence dans les prisons. Faut arrêter toute cette violence, toute cette haine qui se passe. C'est caché.
Ils couvrent tout, c'est pas le premier. Ça sera pas le dernier, comme d'habitude.
C'est malheureux, voilà. C'est malheureux ce qui se passe. Même au tribunal, le juge, il l'a vu. Il était plein de bleu, il était tout mort. Ils l'ont tué. Déjà en garde à vue, ça a commencé là-bas. Puis après, allez savoir ce qui s'est passé dans la prison. Hein. En plus, il faisait 1m90 et ils disent qu'il s'est pendu sur un petit lit superposé. On a mesuré, c'est impossible. C'est impossible.
Même sans ça, de toute façon, la police de Givors, ils font des interpellations gratuites, ils emmerdent les jeunes, ils font tout pour emmerder le monde, ils nous laissent pas vivre tranquille. Après, ils se demandent pourquoi les jeunes, ils s'en prennent à eux ou quoi que ce soit. Mais il faut voir comment ils nous traitent ici à Givors, la police. Comme de la merde. Comme de la merde. Il y a une famille pour un Kinder Bueno, son fils qui a volé à Carrefour. Ça peut arriver, tout le monde peut le faire, c'est un gamin. Ils lui ont tout cassé chez elle. Pour un Kinder Bueno, je sais pas pourquoi il cassait.
Quoi. Monsieur, c'est toujours les mêmes policiers.
Toujours les mêmes, voilà.
Il y en a qui parlent pas, mais il y en a toujours deux, trois qui sortent du lot, qui se croient supérieurs à tout le monde et qui font leur loi et qui font ce qu'ils veulent. Et ça, faut arrêter, il faut que ça cesse. Regardez tous les gens qui sont là, tout le monde a déjà eu des problèmes. Ici à Givors, c'est toujours avec les mêmes policiers, faut arrêter.
Mais pour des petits délits. Banal ou que bon voilà dans d'autres quartiers peut-être ça se passerait rien.
Quand il est décédé, ils l'ont appelé, sa femme elle vit toute seule, ils l'ont appelé à 5h du matin, ils lui ont dit froidement votre mari est mort, il s'est pendu. Et si elle est cardiaque, elle est toute seule, elle vivait toute seule. Ils peuvent pas se déplacer, venir frapper à la porte, ils méritent pas mon oncle. Il c'est pas un humain pour qu'on ait la décence de se déplacer pour lui. Un coup de téléphone, ma tante la pauvre, elle a 29 ans, elle est toute seule chez elle à 5h du matin. Imaginez, elle se serait suicidée après une nouvelle comme ça. Ça en aurait fait deux. C'est horrible, c'est quoi cette justice? Faut arrêter.
Et du coup, vous dites que maintenant vous allez rien lâcher, ça vous donne envie de combattre et par quel moyen de...
On va essayer de combattre par la justice, on lâchera pas. On a des avocats, on a tout ce qu'on fait, on prouvera, on essaiera, on lâchera pas. Que ce soit aussi sur la police de Givors, sur certains cow-boys de la police de Givors, eux on lâchera pas. On a posé des plaintes, on a notre avocat qui s'occupe de l'affaire et on espère du fond du cœur que la justice va un petit peu se bouger et faire quelque chose. Ouais. Parce que là, on en a marre, on en a ras-le-bol. Pas que nous, tous les gens de Givors, on en ras-le-bol. Ouais. Surtout de ces cow-boys ici. Il faut qu'ils nous changent, les policiers, qu'ils nous enlèvent certains, qui changent, qui viennent voir.
Ils enlèvent les corrompus, faut arrêter. En ce moment, j'ai la haine. La haine envers tout le monde. Une haine. Ils nous ont supprimé mon petit frère qui a une vie. Il rigole avec tout le monde, il parle avec tout le monde. Mon frère n'a pas été suicidaire. Il ne s'est pas tué, mon frère. La police de Givors, de toutes les manières, ils nous insultent de tous les noms. Ils font des descentes pour une fouille. Ils vous cassent la maison. Mon frère, ils ont fait deux perquisitions. Même sa voiture, ils l'ont déchiré les sièges à coups de couteau. Son grand plasma, tout neuf de moi, ils l'ont cassé. C'est une haine qu'ils avaient. C'était pas une perquisition. On a les photos, on a tout. La police de Givors, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils fassent leur travail comme il faut. C'est tout, c'est des cow-boys. On a peur pour nos enfants en garde à vue.
Pourquoi ils ont la haine contre les gens comme ça, les flics?
Posez-leur la question. Parce qu'on leur a pas montré la violence. On leur a pas montré assez de violence. On les a laissé trop faire. Eux. Ils nous ont monté dessus. C'est le mot. Ils nous sont trop montés dessus. Parce que quand ils prennent un gamin et que la mère, elle téléphone, si vous voyez comment ils parlent à la maman, franchement, mais vous allez dire, mais c'est pas possible. C'est plus une justice. C'est du cow-boy. On n'a même plus le droit. Notre fils, il est en garde à vue. On appelle gentiment. On leur dit bonjour, messieurs. Mais ils nous jettent mais comme des pommes pourries, des je sais pas quoi. Pourquoi ils ont la haine? Allez leur demander. Ils sont en manque d'argent. Et c'est quand ils attrapent un gamin qu'ils disent « on l'a attrapé avec un bout de shit ». Il est où le bout de shit? C'est eux qui se les fument, le bout de shit. Parce que c'est bien facile de mettre sur le rapport stupéfiant bout de shit. Bon, devant le tribunal, on ne voit jamais le bout de shit. Rendez-nous les bouts de shit que vous avez enlevés à nos jeunes. Ils se payent des bières, ils se payent tout. Ils se vendent sur les gamins, sur les jeunes. Il faut que ça s'arrête. De toutes les manières, moi maintenant, pour mon frère, et c'est pour tous les jeunes de Givors et des Vernes et de partout. Stop. Que la justice soit faite et qu'elle se calme un petit peu, la police de Givors.
On a besoin de la police, mais pas d'une police comme celle-là.
Et de certains inspecteurs, des pourris, qui se remplissent les poches avec des insultes et avec la rébellion et tout ça. Outrage à... Et demandent de 1 000 à 1 500 euros. Toi, tu m'entends, toi. Et c'est de qui je parle. On m'a dit de pas dire le nom, je dirais pas le nom. Mais un bon Dieu, mais une justice des gens. Je vengerai mon frère, petit fils de pute.
Police assassin. Je voulais juste témoigner parce que moi, Farid, j'étais 17 ans normalement, ils étaient au 16, et j'ai c'est quelqu'un qui a grandi avec mes enfants. Donc c'est vrai que bon, dans la vie, on peut toujours faire des bêtises, hein, mais ça ne mérite pas ce qui s'est passé. À mon avis, maintenant, il ne faut plus qu'on joue, qu'on soit dans l'émotionnel. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive un truc, on est tous réunis, c'est beau. Mais il faut que ça soit dans la continuité. Et la continuité, ça veut dire que créer un collectif, justement, qui lutte contre ces injustices. Parce qu'une association qui a un grand nombre d'adhérents, automatiquement, elle sera entendue par les autorités. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'engage pour la mémoire de Farid, que d'ici 2-3 mois, qu'on ait vraiment une grosse association qui lutte contre les injustices. Et Rabbi Rahmou Salih, Inch'Allah.
Alors, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Anissa Zaraï. Je suis la sœur de Fakhreddine Zaraï, qui est mort en prison l'année dernière dans des conditions plus que suspectes, je dirais. Donc, je suis ici, comme vous tous, pour soutenir la famille Lamouchi. Tout ça, ça fait remonter de mauvais souvenirs pour nous. Et je voudrais leur dire tout mon soutien, parce que maintenant, vous savez qu'on est liés par ça. Et je voudrais dire aussi... Excusez-moi. Et je voudrais dire aussi, je voudrais parler aux jeunes, je voudrais parler à nos jeunes des quartiers, parce que c'est aussi nos frères, vous êtes nos frères aussi. Même si mon frère est parti, vous êtes mes frères aussi. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas dire que vous n'êtes pas concernés, parce que ça peut tomber sur n'importe qui d'entre vous. Il ne faut pas dire, ouais, moi je suis fort, je suis incapable, je suis un zèle, je ne me ferai jamais attraper. Non, il ne faut jamais dire ça, parce qu'on est tous concernés. Un jour, on peut tomber sur un contrôle de police. Le contrôle de police se passe mal. Tu tombes sur la tête. Le mec, il va dire, il est tombé tout seul. C'est mort naturelle. Et monsieur le maire, je vous demande, je vous fais un appel et je vous demande, ne nous laissez pas tomber, s'il vous plaît. Ne laissez donc pas tomber tous ces jeunes. Ne laissez pas tomber l'avenir de la France. Parce que tous ces jeunes, c'est l'avenir de la France. On est des immigrés, d'accord ? Mais nous sommes aussi l'avenir de la France. Alors, s'il vous plaît, ne nous laissez pas tomber. Et merci à tous d'être venus. Merci. Au Rabbi Arachmoukari. Au Fakhreddine aussi.
Au début, ils n'ont pas accepté. Ma soeur, elle a posé plainte une première fois. Donc, la plainte est revenue. Elle n'a pas été acceptée. Et la deuxième plainte, elle est partie, ça y est. L'enquête et c'est en cours.
Ça fait plus de 2 ans maintenant ?
Oui, ça fait plus de 2 ans qu'on se bat pour... Ça prend beaucoup de temps, en fait. Un coup, le procureur, il est malade. Un coup, le juge n'est pas là. On rame, quoi, voilà. On rame avec la justice. C'est vraiment c'est difficile, quoi, de faire entendre sa voix.
Tout à l'heure, au micro, tu as lancé un appel auprès des jeunes du quartier des Vernes.
Oui.
Je pense que c'est spécifiquement ce quartier qui est visé, en tout cas, par les violences policières.
Tous les quartiers de France. Moi, je dirais que c'est de la persécution policière. On persécute les jeunes, en fait. Ça vient de plus haut. Nicolas Sarkozy a lancé un appel. Hein. Il a dit tolérance zéro. Et ben voilà, la tolérance zéro. Je pense qu'il l'applique seulement dans les quartiers, mais par exemple, quand Eric Woerth vole de l'argent ou je ne sais quoi, ben là, elle n'est pas appliquée, la tolérance zéro.
Et pourquoi on s'attaque qu'au quartier, selon toi ?
Je pense parce qu'on est maghrébin, parce que c'est une communauté qui a été visée. Maintenant, je pense que c'est les Roms qui sont pris pour cible, mais on reste quand même une grosse cible, je pense.
Sarkozy, il a bien mis le système, la répression, qu'on est bien des merdes, qu'on est bien vraiment le bas de l'échelle, et comme il l'a dit, on est la racaille. Il a mélangé les petits qui font peut-être la merde avec les gens, les bons citoyens. Et bien, s'il faut mettre les points, on mettra les points, parce que nous, on n'a rien à perdre. On était en bas de l'échelle, on n'avait rien. Maintenant, nous, on n'a rien à perdre. On n'a ni baraque, on n'a rien dans cette communauté de France. Voilà. Alors, c'est eux qui ont tout à perdre. La place en haut, l'État et tout. Eh bien, s'il veut tomber, qui tombe ? S'il veut en faire la guerre, eh bien, on fera la guerre. C'est comme ça qu'il faut qu'il fasse. Il n'y a pas 50 millions de solutions. C'est nous, on n'a rien à perdre. On est des gens, on a voulu se battre pour être admis dans cette société. On nous fait voir qu'au jour d'aujourd'hui, même 40 ans après, on n'est pas admis. Et pourtant, Dieu sait que nos parents, avant que lui, qui était dans les roubignoles à sa mère ou à son père, que notre père, il construisait les routes là, où il roule avec sa voiture et tout. Que nous, aujourd'hui, on est là pour la France. Si aujourd'hui, il n'y a pas de solution avec l'État, eh ben nous, à force de presser le citron, eh ben il n'y a plus de jus. On le fera, nous, le ménage. Aujourd'hui, un petit pays comme la Tunisie, l'Afrique, à 500 km², il a démantelé tout un État. Nous, une France, qui est peut-être plus grande, eh ben s'il faut se battre, eh ben franchement, M. Sarkozy, commence à te cacher loin. Commence à te cacher très, très, très loin. Parce que nous, si on s'y met, entre Paris, Marseille, Vitry, Sarcelles, Marignane et Lyon, et tout ça... Ah mais là, c'est fini, c'est une guerre. On nous a fait voir qu'on était des merdes aujourd'hui. On a touché à notre dignité. On n'a pas le droit. Le boulot, on n'y a pas droit. Notre vie, on n'y a pas droit. Et plus maintenant, quoi ? Ils touchent à notre dignité ? Eh ben en fait, c'est « je t'encule », excusez-moi l'expression, mais je rigole. Eh ben, si tu veux nous enculer en rigolant, eh ben, nous, pour être enculés, eh ben, on enculera. C'est comme ça que ça marchera. Ça sera pot de fer contre pot de terre, mais là, ça sera pot de fer contre pot de fer.
Alors, bon, avec notre avocat et la famille, On a déposé plainte contre le commissariat de Givors, contre X. D'ailleurs, on a été reçu par l'IGPN, la police des polices. On a tout expliqué ce qui s'est passé. J'espère que l'enquête, elle sera sérieuse. Et puis, on a déposé plainte contre l'assistance en personne en danger, comme quoi ils ont tout fait pour qu'ils puissent se suicider. Bon, on dit un suicide entre guillemets, mais bon, on n'y croit pas trop, non, la famille. C'est l'enquête qui le déterminera. Puis, on va déposer aussi une autre plainte pour homicide involontaire.
Je vengerai mon petit frère. À la mort, je lui fais la promesse que je vengerai mon petit frère, avec la justice ou sans la justice.
Moi, si quelqu'un rentre en prison et puis qu'il sort les pieds devant, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'ils vont calmer. C'est pas comme ça qu'ils vont calmer leur jeunesse. C'est pas comme ça qu'ils vont calmer leur jeunesse avec la répression. Parce que la violence appelle la violence. C'est tout. La violence appelle la violence. Voilà. C'est tout.
Faut que les flics de Givors se calment, quoi. Parce que là, ça commence à trop faire. Surtout les inspecteurs. Il y a deux ou trois inspecteurs qui se prennent vraiment pour des cow-boys. Hein. Vraiment pour des cow-boys. Hein.
Moi, si on n'a pas un résultat, pas dans 10 ans, hein, on n'a pas un résultat de l'enquête et qu'elle soit claire et nette, moi, personnellement, après, moi, je ne peux plus répondre de personne, moi. Moi, personnellement, c'est mon fils. Demain, il me dit, j'ai buté un flic, et ben, moi, je serai avec lui. Voilà.
Autant mourir comme des hommes, des bons combattants.
Il y a une chose que je voulais juste rajouter, que mon frère, regardez, c'est un destin de la vie. Hein, j'étais l'enterré vendredi. Et
vous avez été l'enterré en Tunisie,
non ? En Tunisie, oui, vendredi. Regarde, c'était un destin, on dirait que c'est quelque chose qui est un signe. On est tombé en même temps avec une foule qui a enterré leur martyr. Il a été enterré en martyr. Ils ont lu le.
Si tu veux pour expliquer, c'était les martyrs de la révolution.
La révolution de Jasmin, voilà, ceux qui ont été tués par la police.
En Tunisie.
En Tunisie. Ces personnes-là, il y avait trois personnes qu'ils enterraient ce jour-là. Ils ont pris le cercueil à mon frère, ils l'ont enterré en même temps et ils ont lu le Coran en même temps parce qu'il est mort en martyr. Moi, quand ils m'ont dit, mais votre frère, il n'a peut-être pas rien à voir, mais je dis, mais si, il est mort en martyr. Parce que mon frère aussi, il n'aimait pas l'injustice. Il a été tué par la police. Eh bien, ils l'ont regroupé avec tous les martyrs qui ont été tués par la répression policière. Toute la répression policière, comme maintenant, n'existe plus en Tunisie. Hein, ils l'ont démantelé. Eh bien, nous, à Givors, il ne faut plus qu'un de nos frères qui meurt par rapport à la police. La police, elle n'est pas là pour tuer les gens. Il a été tué en martyr ici en France. Contre l'injustice, contre l'injustice, contre la répression policière.
Radio Canu.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares, des ports armés aux trousses qui d'une pointe plonge la course dans le caniveau du non-lieu où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Ni les barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout des pierres et des cocktails balancés à genoux. Ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de noir et d'opprobre. Ni les horizons parés par les corbeaux et les hyènes. Ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène. Ni les gerbes fanées au pied des portraits assassinés. Ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches usé par la chaîne, par le mépris et le temps. Ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd. Tout se transforme et le brasier crépite. Et le brasier crépite. Et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Et voilà, toujours à l'écoute de Radio Dio 89.5, l'émission Papillon. Donc voilà, ça c'était un petit reportage qui revenait sur la marche en hommage à Farid Lamouchi le 22 janvier. Donc où plus de 300 personnes de Givors sont rassemblées, voilà, voilà, pour célébrer sa mort en gros. Et du coup, ouais, y avait un autre truc qui a pas été dit, mais c'est que par rapport, c'est un petit détail, hein, mais par rapport à sa garde à vue, et là où justement, bah, ça enfonce encore plus le doute par rapport à la version de l'administration pénitentiaire, c'est qu'apparemment, bon, il était atteint, il avait 41 ans, il était atteint d'une tumeur au cerveau, et pendant 48 heures, on lui empêche, enfin, il a pas pu prendre ses médicaments, quoi. Donc voilà. Et juste pour revenir un peu là-dessus, c'est que il y a un monsieur à un moment au milieu qui parle que voilà, bon, il y a toute l'émotion, hein. C'est vrai que ce reportage, il est voilà, il fait froid dans le dos, il fait chaud au cœur en même temps, et il y a ce truc que voilà, au bout d'un moment, faut plus être dans l'émotion et s'organiser ensemble pour essayer de faire éclater la vérité, comme ce qu'il est en train de faire, bah ouais, c'est comme la famille Zeraï, je crois, par rapport à la mort de Fakhreddine. Et voilà, deux dans le même quartier, ça commence à faire beaucoup. Et là, ouais, par rapport à ça, c'est plus la police qui est incriminée que l'administration pénitentiaire. Et voilà, bah après, c'est encore une occasion de rappeler que police, justice, prison, bah, sont les trois faces d'une même pièce, hein, et que finalement, c'est beau, hein.
Et que, voilà, c'est vrai.
Et que c'est vrai, voilà, c'est un tout, quoi. Et voilà.
Voilà, ben, on va enchaîner avec autre chose. C'est vrai que c'était quand même drôlement touchant, donc moi j'ai du mal à enchaîner derrière, mais on va le faire quand même. On va passer à autre chose. On va revenir sur le festival qu'on vous avait annoncé, Festival du son contre la prison, qui a eu lieu à Lyon le week-end dernier, donc 28-29 janvier. Donc on était très fiers de vous présenter un concert de hip-hop qui se passait à Lyon, qui devait être transmis sur pas mal de radios en France et pour être entendu dans les prisons. Donc on sait notamment qu'il aurait dû être entendu à la maison d'arrêt de la Talaudière, que des gens l'attendaient, et la retransmission a complètement foiré pour des raisons d'organisation et des raisons techniques. Donc, nous, on est dégoûtés, on est désolés aussi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire que c'est fort dommage. En plus, ça devait être enregistré pour être diffusé plus tard, mais ça ne sera pas le cas.
Et donc, oui, parce voilà, que même ça a foiré.
Voilà, pour nous et pour plein d'autres, c'était quelque chose de très important de faire ce concert, pour les groupes aussi, de faire ce concert et qu'ils soient entendus en prison et qu'ils soient avant tout pour les prisonniers. Ça a complètement foiré, c'est fort dommage, et on espère qu'il y aura d'autres tentatives, peut-être moins ambitieuses et plus carrées, je sais pas, enfin on vous tiendra au courant. Voilà, et mais en tout cas, dans le cadre de ce week-end, au-delà du concert, il y a eu aussi un débat, et puis une émission spéciale qui a été faite par les gens de l'Envolée, donc journal et émission de radio de Paris. Mais ils l'ont faite sur Radio Canu à Lyon. Donc, Payou, vous voulez nous en faire un petit retour?
Oui, absolument. Alors, ouais, il y a eu le débat avec Laurent Jacquat, dont on a souvent parlé ici. Et en fait, la veille, parce que c'était plus qu'un concert, c'était aussi un week-end, justement, l'occasion de parler. Il y avait ce concert, plus aussi une émission de radio par rapport à l'Envolée. On en parle souvent, on en a déjà pas mal parlé, où ils font une petite présentation du journal et ils expliquent un peu le but, les objectifs qu'ils ont, quoi, par rapport à ça. Et ils ont passé, il y a une partie de l'émission qui revient un peu sur le cas de deux détenus qui correspondent avec eux, qui se nomment Kautar et Soussou. On avait déjà parlé de l'histoire de Kautar, donc là ça revient un peu dessus. Et en fait, comment, à travers ces deux détenus, ça montre bien un peu le sens que peut avoir toutes ces émissions de radio qui existent un peu partout en France, dont nous représentons à Saint-Étienne. Et le sens que ça peut avoir, et éventuellement, ça peut déboucher dans ce cas-là sur des choses concrètes. Comme par exemple faire virer un directeur, parce que bon, il y a quelques temps on en a pas mal parlé, il y a le directeur de la maison de Versailles qui a été mis en examen et suspendu de ses fonctions, et justement ces deux détenus, Kautar et Soussou, sont pas étrangères à cette chose-là, puisque c'est elles qui ont pointé du doigt en premier ce petit trafic. Il est tombé soi-disant amoureux de la fille du gang des barbares, et en fait il avait mis en place tout un système de passe-droit, de préférence, etc. Donc ça revient un peu là-dessus, toute l'interview, et on refera des petits commentaires après, et puis en attendant, on vous laisse écouter ça.
«
le volet journal anticarcéral. On vous a fait une présentation là, maintenant on va rentrer dans une histoire particulière, une histoire de lutte particulière qui a eu lieu dans la de Versailles. Alors, peut-être on va d'abord faire une rapide mise en contexte pour vous raconter un peu et pour vous lire plein de lettres. Et vous comprendrez encore mieux ce qu'est ce journal, cette émission de radio, etc. Donc, c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié à la prison de Versailles entre Kaoutar et Soussou.
Une histoire de femme, donc.
Une histoire de prison de femme.
Oui, mais au départ, il y a quand même des rencontres. Aussi.
Il y a des rencontres. Puisque Kaoutar écoute la radio à Paris, puisqu'elle est donc à Versailles, et l'envolée, l'émission L'Envolée émet à Versailles. Et elle est en cellule avec une autre prisonnière qui, elle, écoute l'émission, qui écrit à la radio. Elle va donc, en rencontrant cette personne, elle va se mettre elle-même à écouter la radio, à comprendre un peu qu'elle peut aussi écrire. Et il y a une correspondance qui commence avec Kaoutar et la radio. Et la radio et le journal ensuite, puisque ces lettres seront publiées dans le journal. Et donc il y a un lien qui va se tisser, puis des parloirs. Et un lien qui se tisse avec du soutien lors de son procès, etc., etc. On va voir que ça peut aller très loin et qu'il y a eu ce lien-là, ce lien très particulier qui s'est tissé, a donné lieu aussi à une lutte.
Et une autre rencontre aussi.
Et une autre rencontre.
Avec une
autre prisonnière, voilà, c'est ça.
Qui s'appelle Soussou.
Et donc, c'est vrai que l'émission a participé au lien. Donc voilà, donc là, on va vous lire une série de lettres de Kaoutar et de Soussou qui racontent cette histoire. Une histoire qui se passe à peu près sur un an. Puisque la première lettre que je vais vous lire, elle vient donc de la maison d'arrêt de Versailles et elle est datée du 27 décembre 2009. Donc cette lettre s'adresse donc à la radio. Bonjour à toute l'équipe. Bien le bonjour à vous, amis et lumières du vendredi soir. Je voulais tout d'abord et encore vous remercier pour tout ce que vous faites, le temps que vous prenez pour organiser toutes ces interventions durant l'émission. À chaque écoute, je me dis que je ne suis pas seul. C'est une sorte de parloir, ça fait chaud au cœur. Pour ma part, je passe, je crois, le pire des moments depuis ces 27 mois de détention. Je suis tellement triste, je me sens tellement seul. Je le ressens de plus en plus. Et mon chagrin s'accroît de jour en jour. Je sais que c'est pas bon du tout. Je peux passer une journée entière à regarder ce putain de lit au-dessus de moi, à me demander jusqu'à quand ça va durer. La prison est-elle vraiment une solution à toute cette misère sociale? Quand je suis en promenade et que je regarde les filles autour de moi, je me dis que la plupart sont là à cause du système. Des jeunes filles qui volent ou braquent par nécessité, d'autres qui travaillent au noir parce qu'elles n'ont pas de papier, des mules qui passent de la cam pour nourrir leur famille. Il y a même une grand-mère qui s'est fait choper. Quand elle en parle, elle dit qu'elle l'a fait pour sa fille. D'autres le font par leur goût du luxe, tout simplement, parce que c'est la société de consommation qui veut ça. Avoir toujours plus, plus cher et mieux, même si ça sert à rien. Ce sont celles qui sont là pour escroquerie, qui avaient pourtant une bonne situation, mais l'appât du gain a pris le dessus. D'autres filles sans problème, avant d'arriver ici, avaient une vie dite normale, jusqu'à ce qu'un mari frappe, humilie, blesse ou cogne, et qui, sur un coup de folie, l'ont blessé à leur tour et tué. Celles-là se retrouvent du jour au lendemain dans les rangs des criminels et enfermées un bon bout de temps. Et même si un jour les portes des prisons s'ouvrent, elles resteront marquées à jamais de cette mort qu'elles ont donnée malgré elles, sans le vouloir au fond, puisque cette personne perdue, elle l'aimait du plus profond du cœur. Toutes ces années de tôle vont-elles les aider vraiment? La prison est-elle un remède à tous ces maux? Est-elle la solution pour les guérir et fermer leurs blessures? Cet enfermement, cette répétition de tous les gestes, jour après jour, peut rendre fou n'importe lequel d'entre nous. Ou alors augmenter sa colère, si ce n'est sa rage envers ce système complice, voire coupable de la misère sociale. Les politiciens écœurants dont le discours n'a d'autre but que de gagner la voix de l'électeur, mais en vrai, ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, c'est de régner. On vit dans un monde de merde, les amis, j'ai envie de gerber. Kaoutar, 27 décembre 2009.
Ça, c'est une des premières lettres de Kaoutar qu'on reçoit à la radio.
Et du coup, elle est écrite à Versailles, où elle a fait 2 années en préventive. Ensuite, elle a eu son procès, elle a été condamnée à 10 ans. Et donc, bon, on va faire un peu son parcours pour pouvoir commencer de raconter cette histoire-là, dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Donc, elle est condamnée à 10 ans. De là, elle demande à être transférée en centrale. Et la direction de Versailles lui répond que son dossier de transfert est déposé et qu'elle doit attendre un transfert groupé, que du coup, pour qu'il y ait un départ de plusieurs nanas en même temps. Kaouta, à Versailles, elle a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et pour payer les parties civiles. Et donc, après son procès, elle demande à être seule en cellule et elle travaille dans le centre d'appel téléphonique qui est en train d'être installé à la MAF, que le directeur de la MAF de Versailles installe, et qui est un espèce de centre pilote où même Michel Alliot-Marie en personne est venu lui inaugurer. Et Kaouta, c'est une nana qui dehors travaillait déjà pour des trucs d'opération téléphonique, et du coup elle est hyper importante pour le directeur à ce moment-là pour travailler là-dedans. Du coup, il lui fait comprendre qu'elle pourrait plus facilement bénéficier d'une cellule individuelle si elle acceptait de travailler pour sa centrale téléphonique pilote là. Donc Kaouta, elle n'est pas opposée au fait de travailler en attendant son transfert, mais elle travaille, et là elle note qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements et elle préfère y mettre un terme. À ça, elle nous écrit...
Dysfonctionnement, c'est plus que ça. Ça, c'est un terme administratif qu'elle dit dans une lettre. Elle parle de dysfonctionnement, mais dans le fond, il y a déjà un harcèlement particulier de Kaouta et d'autres prisonnières aussi, du directeur...
Et des matones.
Eh bien oui, mais il y a déjà ce climat de faveur, et c'est ce qui est dit là, et c'est ce qu'elle dit plus. Le directeur lui dit, ça sera plus facile pour vous d'avoir une cellule toute seule, si évidemment vous acceptez de faire ça, qui est un travail mal payé, dans lequel elle accepterait du coup d'avoir un espèce de rôle de favorite auprès de ce directeur-là. Enfin, ça lui fait accepter et un boulot de merde, et une position dans la prison bizarre, qui est un truc intermédiaire entre, du coup, la masse des détenus dont on n'a rien à foutre, et une en particulier qui aurait un petit peu un statut parce qu'elle marcherait dans le sens de la direction. Et elle nous écrit beaucoup de lettres qui parlent de ça, mais on ne va pas pouvoir tout lire, mais on peut en lire une petite.
Voilà, on va en lire une qui est, peut-être avant qu'elle prenne complètement conscience de ça, déjà, qui nous dit beaucoup de choses sur le travail en tant que tel. Voilà, on n'est pas encore sur son statut particulier, mais déjà, elle, comme une ouvrière, voilà, elle nous écrit ça le 17 avril 2010. Donc on est toujours à Versailles.
Et c'est tout de suite après son procès.
C'est tout de suite après son procès, et c'est Kaoutar qui parle. Ils m'ont fait revenir à Versailles, pas pour mes beaux yeux, mais parce que je suis utile pour eux, et je suis un bon élément pour leur apporter de l'argent. À la centrale téléphonique qu'ils viennent de créer à la MAF, je suis payé à l'heure. Et en plus, chaque rendez-vous négocié avec un client m'est payé 1 euro. Vous imaginez, 1 euro. Quand on sait que pour un rendez-vous pris avec un client, si la vente est réussie, c'est un achat de 25 000 euros qui est signé. Et nous, on touche 1 euro. Quant à tes heures travaillées, avant de partir, je n'ai même pas eu ma paye complète. Il me manquait 150 euros. Franchement, on nous parle de réinsertion, on n'est même pas capable de nous payer correctement. On participe à cette économie bananière qui ne leur apporte que bénéfices. Et en plus, ils nous prennent pour des cons. Peut-être qu'avec certains détenus, cela fonctionne, car la plupart, malheureusement, n'ont jamais travaillé dans une société où tu as quand même des droits, un syndicat pour te conseiller et t'aider à les faire valoir. J'arrive au travail, quelquefois, ne cherchant pas à savoir si je vais bien ou pas, on est en prison, quand même, avec tous les soucis particuliers qu'un enfermement génère. Allez, des rendez-vous, les filles. On parle pas. Il y a des jours où on était à 10 dans une petite salle, tout au téléphone. Imaginez les bruits, même pas d'isolation.
Donc voilà. Kaoutar, elle refuse ce travail de merde pour des miettes, et elle refuse aussi l'espèce de place privilégiée que propose le directeur de Versailles, qui est le fameux Gonsalves, déjà à l'époque, dont on va parler, parce qu'il y a un gros lien entre cette histoire et la mise à pied qu'il a aujourd'hui et qui a fait la une des médias pendant quelques temps. Du coup, Kaoutar, elle met un terme à ce contrat de travail. Et elle décide d'informer de la rue, donc le contrôleur général des prisons, des graves problèmes qu'elle avait rencontrés à la maison d'arrêt de Versailles. Et elle y dénonçait surtout un fonctionnement très arbitraire fondé sur de multiples traitements de faveur. À ce moment-là, de la rue lui avait répondu qu'il allait du coup visiter Versailles, venir faire une visite à Versailles, qu'il avait faite, et il avait interrogé plusieurs prisonnières pour essayer de savoir. Pour répondre en fait à l'appel donc de cette prisonnière qui lui écrivait Kaoutar. Donc il fait son rôle de contrôleur général des prisons.
En octobre en fait.
Et voilà, il lui annonce sa visite et il la fera finalement à l'automne.
Alors qu'elle n'y est plus, mais bon.
Et alors ça, mais on le sait que plus tard, la visite du contrôleur général des prisons a lancé à Versailles une enquête interne qui a couru sur plusieurs mois et qui arrive au résultat d'aujourd'hui, c'est-à-dire la mise à pied de Gonsalves et pour les histoires qu'ils ont sorties avec notamment, du coup, ils ont beaucoup parlé d'Emma, la fille du gang des barbares, mais aussi d'autres nanas, etc. Enfin, en tout cas, la mise à pied de ce directeur-là par rapport à une espèce de système de favoritisme qui faisait régner à Versailles.
Sachant quand même que le système de favoritisme était arrivé à un point où des gens comme Kaoutar, comme Soussou, appelaient la dénommée Emma la tôlière, quoi.
Bon, du coup, Kaoutar, elle quitte le centre d'appel, donc elle se met vraiment en porte-à-faux avec le directeur. Et elle va chez la psychiatre parce qu'elle n'est pas bien non plus. Et la psychiatre lui fait un arrêt de travail pour l'aider dans ce sens-là. Et quand elle retourne en cellule, alors qu'elle savait, elle était seule jusqu'à ce moment-là et qu'elle demandait à rester seule, évidemment, on lui a mis une autre prisonnière. Du coup, elle refuse de rentrer dans la cellule et elle dit qu'elle préfère être placée au mitard. Et elle disait, en disant qu'elle a vraiment besoin de ce calme et que la psychiatre même de l'atoll dit oui, c'est important pour elle, etc. Donc en fait, là, il y a le directeur et trois surveillants qui l'obligent à rentrer dans la cellule en essayant de l'acheter à l'intérieur. Donc elle résiste, elle se débat. Elle les insulte aussi, menteurs, magouilleurs, et puis peut-être d'autres. Et du coup, elle est placée au mitard. La psychiatre de Versailles qui apprend ça dit que son état de santé est incompatible avec le mitard et qu'elle a besoin d'être seule en cellule. Et Kaoutar est sortie du mitard suite à ça, mais elle est placée en cellule de 6. Donc il y a un petit acharnement qui continue sur elle.
Vraiment, ce que tu décris, c'est vraiment ça, quoi. C'est un système d'acharnement contre effectivement.
Une rebelle.
Contre quelqu'un qui veut pas.
Elle refuse ce qu'on lui propose, que le directeur lui propose, et de là. Elle n'était pas hyper heureuse avant, évidemment, d'être en prison. Mais de là, on commence vraiment à lui mettre la misère sur la gueule et à lui faire tout ce qui ne lui fait pas du bien. Et très peu de temps après, lorsqu'elle sort en promenade, elle est prise dans un traquenard. Et plusieurs prisonnières, en fait, elles sont deux, la tabassent dans la cour de promenade. Et ça, sous couvert, voire commandement de la direction, puisque Kaoutar raconte plus tard qu'en descendant à la promenade, elle jette un coup d'œil à la guérite comme d'habitude, et là, il n'y a pas de matone, ce qui arrive jamais. Du coup, c'est que forcément, en tout cas, l'administration pénitentiaire est dans le coup pour ce passage à tabac. Du coup, elle se fait bien bien tabasser et elle va à l'hôpital où elle a plusieurs jours d'ITT. Et suite à ça, elle est transférée à Fresnes.
Juste, j'ai envie de revenir juste sur, encore une fois, ce système de privilèges. Voilà ce qu'il fabrique à ce moment-là. Il fabrique aussi une pression qui est partout, qui est une pression des détenus entre eux. Et ainsi, le système de privilèges, c'est aussi un relais de la matonnerie, comme on vient de le voir là précisément. Et c'est pas du tout une histoire singulière à Versailles, évidemment.
Non, ouais,
et c'est ça que Kaoutar arrivera bien aussi à dire. C'est-à-dire, voilà, c'est propre au lieu d'enfermement. Ce type de fonctionnement, une prison ne peut pas fonctionner finalement sans un système de privilèges dans lequel il y a des détenus qui ont des privilèges particuliers. Et ça rappelle, enfin voilà. Ça rappelle
l'extérieur.
L'extérieur, et ça rappelle aussi le fonctionnement des camps en général. Hein, les camps fonctionnent comme ça, hein, que ce soit des camps de transit, d'extermination, etc. Tous les lieux d'enfermement fonctionnent et ne peuvent fonctionner que sur l'assentiment et la complicité.
La coopération.
Et voilà.
Des balances, des gens qui font une partie du sale boulot et qui sont des maillons
qui
indispensables.
Tout ça, ouais.
Et juste une dernière chose avant que tu continues sur cet épisode psychiatrique qui va suivre. Publier ces lettres, c'est déjà commencer à être en lutte en fait. Parce que ces lettres-là, le fait qu'on se fasse le relais de cette histoire, ça, à la fois, ça protège Kaoutar contre ce qui pourrait lui arriver, puisque maintenant son affaire est publique, on la rend publique et on la porte. Et on va voir que par la suite, on est même intervenu dans le processus pour... Donc voilà, ça c'est quelque chose de... Publier ce qui se passe à l'intérieur, ça protège et ça contribue à fabriquer un peu de... Plus que de l'aide, de la lutte aussi, voilà.
Et quand cette histoire-là est continue, on arrive aussi sur le fait que la prison brise vraiment les gens et qu'elle tue et qu'elle casse. Voilà, et là, cette histoire, elle le dit, puisque Kaoutar, suite à toute cette pression qu'elle subit à Versailles, quand elle est transférée à Fresnes, elle va vraiment pas bien. Et, Et quand, quand ses proches arrivent au parloir pour la voir à Fresnes suite à son tabassage à l'hôpital, etc., ils se font mettre en garde par un gradé qui leur dit « Attention, vous n'allez pas la retrouver dans l'état où vous l'avez vue, elle n'a pas toute sa raison ». Et les matons de Fresnes expliquent qu'ils ont été obligés de la mettre à l'isolement par crainte d'une tentative de suicide. Et qu'ils ont demandé un placement en hôpital psychiatrique. Et effectivement, c'est pas juste du blabla, les deux visiteurs qui viennent voir Kaoutar sont vraiment choqués de la retrouver dans un état qui n'a rien à voir avec celui dans lequel ils l'avaient vue la semaine d'avant. Elle va vraiment pas bien, elle a pas toute sa raison, elle sait pas où elle est, elle est complètement perdue. Et du coup, le gradé en poste ce jour-là leur dit que Kaoutar est arrivé dans cet état. Donc là, c'est tout un truc où, de toute façon, t'as quelqu'un en face de toi qui peut plus te raconter ce qui s'est passé, qui perd un peu la boule. T'as autour des gens qui te diront jamais la vérité, puis qu'ils en savent rien et que c'est tout dans leur intérêt de mentir. Et donc là, t'as vraiment l'abîme dans lequel sont jetés les proches aussi, tout autour, face à l'opacité de tout ce truc-là, et qui est vraiment en train de tuer quelqu'un, pour le coup.
Parce que c'est vrai que ce que tu dis là, tout s'est passé à Versailles, et hop, toute la pression qu'il a mis dans cet état-là s'est passée à Versailles, et on la transfère. Et là, à Fresnes, personne n'est au courant de rien, c'est très facile, et c'est aussi ce truc-là, on oublie, on est face à c'est l'administration, là c'est l'autre côté de la prison, c'est-à-dire le côté administratif. L'administration, c'est ça, on efface la mémoire en permanence de ce qui se passe, et on efface toujours à des nouveaux interlocuteurs qui connaissent absolument pas ce qui s'est passé.
Et on brise tous les liens qu'elle pouvait avoir d'amitié avec des prisonnières à Versailles aussi.
Voilà, qui la tenaient en même temps, qui la tenaient. Voilà.
C'est ça. Et du coup, Kaoutar, elle reste une semaine à Fresnes, le temps que la lourdeur administrative pour son transfert en hôpital psychiatrique se fasse, mais elle va déjà mieux puisqu'elle a une autre visite et donc sa famille dit non, elle va quand même nettement mieux. Mais du coup, comme le transfert avait été demandé, elle est emmenée quand même à l'UMD de Villejuif. Non, à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud de Villejuif, mais c'est l'UMD du coup.
Oui, c'est l'UMD. Donc, alors l'UMD,
ouais. Unité pour malades difficiles.
Unité pour malades difficiles, donc c'est une sorte de...
De prison.
C'est une prison hôpital psychiatrique qui est à la fois pour les détenus les têtes dures...
Récalcitrants.
Les récalcitrants à qui on n'arrive pas à faire plier la discipline, ou des prisonniers qui, à un moment donné, sont dans des formes de délire, etc. Et aussi, dans l'UMD, il y a aussi... des gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques et qui sont considérés comme dangereux et qu'on va mettre là aussi. Donc se retrouve toute une population qui est considérée, étiquetée dangereuse, voilà, pour l'État, évidemment, qui n'arrive pas du tout, qui ne sait pas quoi faire de ces gens-là à ce moment-là. Et voilà, donc là, on est dans le fond de la cuve. De l'enfermement et du carcéral, on est dans vraiment ce que cette société rejette le plus, quoi. C'est-à-dire des gens dangereux qui sont même au-delà de la prison, qu'on considère comme... Voilà. Et on voit comme très vite, voilà, jusqu'à Outard, qui se retrouve là, sous des pressions, qui va se retrouver très vite, et on voit que ça n'a rien. Voilà, ça dit quelque chose sur l'usage de la dangerosité, cette histoire. On voit que l'étiqueter dangereuse. En l'espace de quelques semaines, elle va se retrouver comme
cachetonne.
Complètement enfermée, cachetonnée, considérée comme quelqu'un d'extrêmement dangereux. Donc on voit quand même, voilà, cette histoire de dangerosité qui est un fondement du système pénal, la dangerosité, hein, quand même.
Préparé au Big Bang, derrière tous des clics de ouf, des pits à casquette, des big bands.
Qu'est-ce qui se passe, mec?
Les types scandent qu'ils vendent shit, les scones chantent, le fric descend de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vite, monte à Tommy, monte, top ta vidéo de Montana, Tony, pompe ton anatomie.
Vas-y, accomplisse la
free, pour que tous restent en vie, vos vies sont grillées.
Comme la gueule dans un survêt loto,
ou un tueur qui laisse sa photo, une lueur dans le regard, un front plein de sueur, une peau noire, un esprit clair pour le Nesby. La rue, mon casino, comme Pacino et Petty. Entre nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Comme si c'était l'épilepsie, ça secoue sur du Mako, ça défilé de filles épilées en brouille.
Hey, mais c'est Mako, ça.
Des bouteilles de whisky se cassent comme dans les saloons.
On dirait une scène dans Platoon, c'est la merde, frère.
J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones. J'ai de la force pour les frères.
les étoiles, mais seul guide. Retour aux pyramides après des
Royal
siècles.
Comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre, comme Rocky. Tant qu'ils sont gros, qui par mon style leur drogue. Prenons le fric avant qu'ils crient bigre, merde. T'inquiète, j'ai le croquis, le plan pour les faire hacker. Allume l'air, pour le partage du blé. Qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler. Tu me comprends, je veux pas de quiproquo. Direction les Caraïbes, noix de coco. Eau tiède comme le sirocco. Fille exotique pour un mec classe et X comme Rocco. La haine me motive, j'ai un train de plus, je conduis la loco. Motive, détache des wagons, né l'année de
j'ai eu mon pote, ilophile. Pour un deal où on pouvait mettre pile au mille. Un plan géant comme Shaquille O'Neal. C'était ça ou sinon. Des bisous, y'a déjà autant de gars sur le filon. Que de frères en prison ou de pédophiles aux Philippines. Donc tranquillon, prends quelques kilos de muscles juste en cas d'attaque.
J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones,
nique les clones.
J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Moi, choc.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de toutes sortes d'autres radios. C'est du son contre la prison. On continue avec l'histoire de Kaoutar, donc qui se retrouve en hôpital psychiatrique.
Voilà, et si, petit rajout aussi, tenter que quelqu'un ait un doute sur le pouvoir qu'a l'administration pénitentiaire de effectivement briser les gens et de, non pas de les rendre fous, je veux dire, mais de les conduire dans toutes les institutions de ce genre-là, psychiatriques, etc. C'est que, donc, Kaoutar, quand elle était à Versailles et que, à Versailles même, la psychiatre de Versailles était assez dans son sens, c'est-à-dire qu'elle essayait de la protéger de ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire en disant que son état était incompatible avec beaucoup de choses, etc. Le directeur de Versailles à ce moment-là dit à Kaoutar, ben, si vous voulez jouer avec la psychiatrie, mademoiselle, on va jouer. Et comme par hasard, deux semaines plus tard, Kaoutar est à l'UMD de Villejuif. Et donc quand Kaoutar se retrouve à l'UMD de Villejuif, là c'est donc la prison dans la prison. La famille, les proches, plus personne ne peut plus rien savoir de ce qui lui arrive. On ne peut plus la voir. Du coup, forcément, tout le monde a très très peur de ce qui pourrait lui arriver, puisqu'avant on leur dit tentative de suicide, etc., qu'elle est complètement folle. Ils savent qu'elle est cachetonnée, mais ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'elle prend, rien du tout. Et donc, et là, il se passe un truc important, c'est que la famille, elle lâche rien. Et là, notre rôle, à nous aussi, l'équipe de la radio, est aussi important. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les proches de Kaoutar font un vrai pied de grue à l'hôpital psychiatrique en harcelant les infirmiers, le directeur, etc., en disant non, non, mais nous, on la laisse pas là sans savoir. Donc, ils passent des coups de fil à longueur de journée. Ils y vont poireauter pendant des heures pour croiser deux minutes quelqu'un. Et ça, c'est sûr qu'il faut avoir le temps de le faire, mais c'est sûr que si tu fais pas ça non plus, tu laisses vraiment quelqu'un dans les méandres de ce truc-là. Il y a aussi des lettres qui sont écrites pour avertir de la situation, pour mettre en accusation des gens, le directeur de Versailles, etc. Enfin, s'il arrive quelque chose à mademoiselle Kaoutar, machin, ce sera de votre faute. Donc il y a des lettres qui sont envoyées tout au contrôleur des prisons, au directeur en tout genre, au directeur de l'hôpital psychiatrique. Donc il y a une
au ministère,
il y a un rapport de force qui essaye de s'installer là-dessus et qui essaye de pas laisser faire cette mise en UMD de laquelle tu peux rien savoir, de la laisser dans le silence. Et ça marche parce que Kaoutar, elle sort en 10 jours de l'UMD, ce qui n'arrive pas. Qui est complètement hallucinant. Et quand on demande pourquoi elle est sortie aussi vite, il n'y a pas vraiment de réponse, en fait. Les gens ne répondent pas, parce que la réponse, c'est qu'il y avait de la pression autour, et c'est que les gens n'ont pas voulu se faire... toutes ces administrations-là, ces institutions, elles n'ont pas voulu non plus se laisser trop emmerder par un truc. Du coup, à un moment donné, elles lâchent, elles disent « Ok, bon, ben, ça va, on l'a fait sortir ».
Peut-être tu peux évoquer la pression. Bon, certes, il y avait la pression de l'équipe de la radio, etc. Mais il y avait surtout aussi la pression des proches de Kaoutar et de proches aussi d'associations, de proches de prisonniers et de détenus qui, de l'ARPI notamment.
Oui, il y avait l'ARPI. Il y a eu un espèce de fédération de plein de choses. Donc de l'équipe de la radio, de l'association de l'ARPI, des proches de Kaoutar. Tout un tas de gens qui ensemble ont écrit partout, ont appelé l'hôpital, se sont pointés, ont fait le pied de grue. Et tout ça a fait une pression, un rapport de force qui a permis sa sortie.
Cette histoire autour de Kaoutar, de Soussou et de ce qui s'est passé à Versailles, puis à Fresnes, puis à l'UMD, voilà, un parcours qui dit pas mal de choses sur la prison.
Qui dit pas mal de choses, qui dit aussi des choses sur nos pratiques à nous, de bagarre, on disait ça tout à l'heure. Et voilà, c'est ce qui permet qu'on reçoive cette lettre là que je vais vous lire. Donc là, on est le 6 septembre 2010 et elle est de retour à Fresnes. Donc de la maison d'arrêt de Fresnes, c'est Kaoutar qui parle. Salut à toute l'équipe. Je vous écris ce courrier pour vous déclarer toute ma reconnaissance pour tout ce que vous avez fait, pour me faire sortir de ce trou à rats qu'est l'hôpital psychiatrique. Cet endroit si horrible pour quelqu'un de sensé. Je vous expose un peu le genre d'endroit et ceux qui ont entré pourront le confirmer. Il n'y a que des gens amorphes devant toi. Déjà, pour quelqu'un de l'intérieur qui se retrouve dans ce lieu morbide, c'est compliqué. Mais pour un détenu, c'est pire. La chambre l'est tout aussi pour longtemps. Une chambre avec comme seul compagnon de fortune une couverture et un seau sans le pyjama, car ils avaient peur que je m'étrangle avec. Vous vous rendez compte ? Même les toilettes, ils ne voulaient pas les ouvrir. C'est simple, ils rentraient à trois dans la chambre, seulement pour les repas. Alors si tu as une envie pressante, il faut te contenir ou, entre guillemets, finir dans le seau. Il fallait que je sois gentille, pratiquement les supplier à genoux pour qu'ils te laissent aller aux chiottes. Comme seul moyen de lecture, il me ramène Closer, ou Voici. On voit déjà le genre de magazines qui sont dédiés aux patients. Et en plus de ça, il ne voulait pas me donner mes lunettes. Peut-être avait-il peur que je les mange ? Alors quoi faire d'autre que de prier pour sortir de ce trou de merde ? Des infirmières complètement laxistes, Soumaya, donc c'est sa sœur, me l'a confirmé. Et Anaïs aussi, à mon dernier parloir avec elle. J'imagine que j'étais une tare pour eux. Je les empêchais d'être tranquilles. Ils te parlent comme à une enfant de 5 ans d'âge mental. Pendant une semaine, je me suis retrouvé nu, avec comme seul dessus-dessous, on ne sait même plus, une couverture polaire. Même quand les infirmiers hommes rentraient, j'étais obligé de me couvrir de la tête aux pieds. Je me suis recroquevillé sur moi-même et attendais patiemment que je sorte de cette chambre merdique. C'était horrible. Tellement odieux que lorsque je suis revenu à Fresnes dans ma cellule, vous imaginez, j'étais contente de retourner en prison plutôt que d'être chez les psys. C'est que quand même je vous laisse imaginer à quel point cet endroit est minable. Je les plains tous ces patients qui doivent subir au quotidien cette torture morale et physique, car voilà le légume que tu deviens. Il y a une semaine de cela, je ne pouvais même pas tenir un stylo pour écrire. Comme simple moyen de décompresser, c'était la cigarette. Mais attention, la cigarette, c'est comme si tu disais à un enfant, sois sage ou tu n'auras pas de bonbons, au compte-gouttes. Ce sont des pauvres merdes et je ne mâche pas mes mots. J'englobe tous ceux qui font partie de cette institution. Même avec les familles, ils sont laxistes, méprisants et non professionnels. C'est comme la prison, quoi. Elles n'en ont rien à faire de toi. Tout ce qu'elles veulent, c'est rester chez elles, comme les matones. Aujourd'hui, je suis à Fresnes et je commence à m'habituer au système complètement différent de celui de Versailles. Je suis dans une vraie tôle, pas comme la prison dorée de Versailles, comme il s'en vantait toujours ce petit nain. Petit nain, c'est le directeur, avec ses fausses promesses. Je me sens mieux, physiquement, et je reprends du poil de la bête. Le souci, c'est comme dans toutes les maisons d'arrêt. C'est qu'on ne va pas en promenade ensemble, et c'est ça qui est chiant. On a 2 heures l'après-midi, les côtés pères et un père sont séparés. Cela veut dire que si tu connais une fille de l'autre côté, tu ne la verras jamais. L'été est terminé, je me suis inscrite à une formation coiffure qui est rémunérée 89 euros. J'ai décidé de faire ça car l'atelier, j'en pouvais plus. Trop de quand dira-t-on, de blabla, de vol entre les filles. Ça me saoule, je préfère la formation. On ne sera que 12 personnes, ce sera moins bruyant. Bon, c'est pas cher payé, mais cela m'occupera. Sinon, concernant mon avis sur Fresnes en général, je m'attendais à pire, car elle a la réputation d'être disciplinaire, mais bon là, je me tiens à carreau. J'en ai marre de me battre contre un mur en béton, car toute seule on ne peut rien. Et ici, comme dans d'autres prisons, il n'y a pas de solidarité. C'est fini le serrage de coudes d'antan. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous ici. Bon, je vais vous laisser en espérant que vous arriverez à me lire. Désolé pour l'écriture. La dernière chose, et je réitère mes propos du début, c'est que je suis énormément reconnaissante de ce que vous avez fait pour moi, fraternellement, Kaoutar.
Donc voilà, ça c'est la lettre qu'on reçoit. Ça fait déjà au moins un mois qu'elle est sortie, un mois et demi, voire. Mais elle n'arrivait pas à écrire et puis elle avait. Elle n'avait pas écrit. Donc on reçoit cette lettre là en septembre. Et du coup, elle est à la maison d'arrêt de Fresnes où elle va rester un petit moment. Et là-bas, elle retrouve une prisonnière qu'elle connaît qui s'appelle Soussou. Et elles s'étaient retrouvées toutes les deux en cellule déjà à Fleury. Et elles partageaient assez le goût de dénoncer ce qui se passe et d'ouvrir sa gueule et de pas laisser faire ensemble. Et Soussou, c'est aussi une nana qu'on va rencontrer à partir de là.
Une guerrière.
Et qui aussi avait déjà écrit au contrôleur, à l'OIP, à des trucs comme ça pour ouvrir sa gueule quand elle avait envie de dire qu'un truc se passait mal. Et du coup, quand elle se rend compte qu'on existe et qu'elle peut nous écrire, eh ben, elle se saisit aussi de ça et elle écrit plein de lettres. Et du coup, voilà, Kaoutar et Soussou, elles sont toutes les deux à Fresnes. Et là-bas, elles sont en prise avec le capitaine, le chef de détention, Lévy, qui leur fait la misère, qui continue de leur faire la misère et qui a vraiment plus particulièrement Soussou dans le nez, qui la hait assez viscéralement. Et du coup, Soussou, elle a plein d'emmerdes avec lui et Kaoutar aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous lire une lettre où elle raconte cet épisode-là. Et donc, vous allez voir la teneur des rapports.
Donc là, on est le 20 novembre, toujours de la maison d'arrêt des femmes de Fresnes, 20 novembre 2010. Salut à toute l'équipe. Je vous écris ce jour, jour de ma sortie du QD, donc quartier disciplinaire, ce samedi matin. Avec tous les écrits que je vous ai fait parvenir, vous aurez la version de l'administration pénitentiaire sur ce qui s'est passé. Nous voulions juste discuter et avoir une réponse concrète, car c'était le jour même de la fête de l'Aïd, et comme j'ai dit, on ne fête pas Noël le 26 décembre. Nous nous étions mis sur le fond de la promenade, sur un banc, assises tranquilles, le temps d'avoir affaire à la directrice et au capitaine, car la gradée n'avait rien à nous dire, à part de rentrer et de régler le problème dedans. Le capitaine Lévy est arrivé avec ses surveillantes, casquées et menottes à la main. Et il ne nous a même pas demandé si on voulait rentrer dans le calme ou s'il serait obligé d'employer la force, encore moins discuter. Il s'est dirigé directement sur Soussou en lui disant « C'est vous la meneuse ». Voyant toute cette rage qu'il déployait envers Soussou et comment il forçait à la menotter en lui levant le bras au plus haut pour lui faire du mal, je me suis agrippé au banc, d'abord en me levant pour lui dire de la lâcher, que c'était moi la meneuse et qu'on voyait bien qu'il avait la rage contre elle. J'étais toujours agrippé au banc, les surveillantes n'arrivaient même pas à me noter. C'est juste quand j'ai vu qu'il lâchait Soussou que je me suis laissé faire. Ma doudoune était arrachée et mon jean tout usé, tellement elles nous ont traînés ces connasses. Et je peux vous dire une chose, hein. On en a discuté avec Soussou, c'est que si j'avais pas été là, je vous jure tellement je sentais la rage et le plaisir, et surtout l'occasion qu'il avait, en or, de se réjouir de cette situation, si j'avais pas été là, il l'aurait frappé mal mais mal. J'ai déjà eu affaire à leur méthode à Fleury en 2008. J'étais seul et ils m'ont frappé. C'est facile tout seul contre une bande. Soussou a pris 3 jours fermes et 5 jours avec sursis. Et moi, 4 fermes et 4 avec sursis. Ben ouais, j'ai dit que j'étais la meneuse. Mais en vérité, il n'y avait pas de meneuse, il n'y avait rien. Cela fait 5 mois que je suis ici, il n'y a pas d'aumônerie. Depuis que je suis arrivé, j'ai tout fait avec Soussou pour leur donner le numéro de l'aumônière de Versailles, qui est volontaire pour venir. Pour nous qui sommes fidèles à notre religion, c'est important. La veille de l'Aïd, l'imam de chez les hommes a envoyé des colis pour nous, au repas du soir. Alors que Soussou et moi, on avait jeûné pour le jour de Arafat, ils nous sortent une liste et manque de bol. Soussou et moi, et une autre fille, Malika, qui avait jeûné aussi, on n'était pas sur la liste. Ils font tout pour qu'on pète les plombs. Ces colis ont été distribués à des gens qui n'étaient pas concernés par cette fête. C'est intolérable. Tout ça, on le dit, on le répète. Chaque jour, c'est la même rengaine. Chaque jour est un combat. À force, on est fatigué, car on parle à des murs bleus ambulants qui en ont rien à foutre. Mais moi, ça fait 3 ans que je suis incarcéré. Et je vous assure que si je n'avais pas ma foi infalsifiable, je ne serais plus là aujourd'hui. Je ne tolérerais jamais qu'on blasphème ma religion, et c'est quand même ce qu'ils font. La preuve, c'est qu'on voulait pas me donner mon foulard, alors que Soussou, elle, on lui avait laissé ses cordons de jogging. Ça veut dire quoi? Toi, tu ne pries pas et toi, va te pendre? Je n'en peux plus des maisons d'arrêt. Vraiment, j'ai hâte de partir. Aujourd'hui, j'apprends que mon transfert est peut-être pour la semaine prochaine. Cela veut dire que je ne pourrai peut-être pas vous écouter vendredi prochain. En tout cas, Soussou se joint à moi pour vous dire ô combien votre soutien nous touche. Toutes ces épreuves nous forgent l'esprit et nous montrent bien l'inhumanité des prisons françaises. Là où je vais aller, je sais que je n'aurai plus ce genre de problème, car le régime des portes ouvertes m'aidera à mieux gérer ma détention, à finir ma peine tranquillement. Je suis fatigué de ces rapports, de force, je suis fatigué de me prendre la tête autant. Ça me dégoûte, cet incident pour la simple raison qu'on était 3 à se battre pour avoir un lieu de culte. Les autres détenus, soi-disant musulmanes, n'ont pas bougé d'un pouce. Ce sont les Basques qui ont écrit tout de suite, individuellement, car elles ont assisté à toute la scène dans la promenade. Vous avez raison, il n'y a que des moutons ici. Les filles se rabaissent pour obtenir bouffe, clopes et café, mais oublient leur dignité et leur droit d'expression. Personnellement, je préfère crever de faim que de rentrer dans ce jeu malsain. Je voudrais terminer cette lettre en faisant un big up à tous les braves. Restons dignes et debout face à ces grosses merdes. Force, courage, détermination et patience. Kaouta.
Il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que voilà, pour les histoires religieuses, on n'est pas particulièrement pour soutenir toutes les luttes religieuses en prison. C'est pas ça du tout. Et ça montre précisément que l'envolée ou tout ce qu'on fait, on construit des rapports avec des gens. On construit des rapports avec des gens qui luttent sur leurs histoires. Bah, on est là aussi avec eux. C'est pas, on va pas commencer à faire un tri pour le coup, un tri militant. On est, et voilà, c'est une question. C'est une question qu'on va pas résoudre là. Là, on les soutient. Après, voilà, on va pas résoudre la question de la religion en prison. On sait très bien ce qu'est la religion, à quoi elle sert, etc. On vient plutôt d'une histoire libertaire pour le coup, évidemment. Donc, on va pas tout dérouler cette histoire-là. C'est juste montrer, voilà, il y a des gens qui luttent. On est là, on est en contact avec eux, et voilà ce qui se passe.
Ces histoires-là racontées à la radio ont fait que d'autres gens avec qui on correspond et qui écoutent la radio, et qui sont des prisonniers de Bois d'Arcy, notamment un, Omar, avec qui on correspond directement, ont pu réagir et, par rapport à cette histoire de la fête de l'Aïd qui est arrivée à Kaoutar et Soussou. Et du coup, juste après cette histoire-là qu'on en est parlé, on a reçu une lettre, mais on va vous lire juste un espèce de petit bout qui revendique l'action qu'ont fait les gars de Bois d'Arcy.
Voilà. Alors, à l'isolement du quartier de haute sécurité de Beaudarcy, les 7 prisonniers de guerre du couloir de la mort ont refusé de prendre les plateaux repas en solidarité avec les prisonnières de Fresnes en lutte qui réclament le droit au culte à l'occasion de la fête de l'Aïd. Elles ont subi la répression violente des cagoulés de Fresnes en guise de réponse de la directrice. Voilà. C'est un symbole de maltraiter et de jeter au cachot Kaoutar et Soussou le jour de l'Aïd.
Oh là, petite connivence religieuse entre eux, mais pas que, parce que c'est aussi juste une réaction par rapport à ce qui leur arrive et une solidarité dans les faits aussi, au-delà de dans les mots, et qui touche énormément Kaoutar et Soussou qui vont répondre à ces lettres-là en disant merci les gars, c'est chouette de savoir encore moins seul et que dans une autre prison ça bouge. Et Soussou qui se permet de dire aussi en plus vous êtes plus nombreux donc faudrait peut-être vous y mettre un peu plus si on voulait vraiment faire tomber les prisons. Au passage, elle en place une. Et nous aussi, ça nous touche parce que du coup, bah, si la radio, ça sert à ça, et ben c'est vraiment un des buts.
Un mot sur les Basques qui ont tout de suite réagi. Les Basques, c'est voilà, les prisonniers basques sont très organisés en prison. C'est peut-être le groupe le plus organisé et qui ont tout de suite soutenu. Et évidemment pas sur des considérations religieuses. Ça va de soi. C'est pas du tout ça. Les Basques n'ont pas réagi là-dessus. Elles ont réagi sur l'idée de lutter ensemble.
Et c'est une histoire dans laquelle il se passe encore beaucoup de choses. Parce qu'après, après cette histoire de l'Aïd, Kaoutar est finalement transférée. Donc tant mieux
une
pour elle,
plus.
Parce qu'elle en avait très envie cette fois-là. Donc elle est partie à Rennes en centrale. Donc espérons qu'elle pensait y trouver un peu plus de calme et que c'est quand même le cas. Et Soussou, elle reste à Fresnes avec ce Lévi qui la déteste et qu'elle déteste. Et elle le lui rend bien. Et là, les galères pour elle continuent de s'enchaîner. Et notamment, elle se fait sucrer le parloir avec sa mère et son fils pour une histoire complètement conne. Et pareil, elle écrit une lettre et c'est pareil, elle le dit très bien. Du coup, on va la lire.
Alors, Soussou, salut à vous. Pour moi, rien n'a changé avec cette espèce de rat mort. Tout est sujet à conflit. Vous connaissez la musique. Il se passe le mot pour t'épuiser, mais c'est peine perdue. Car au contraire, ça me ressource et j'ai encore plus la rage. Hier, j'ai eu parloir avec ma mère et mon fils Yanis, qui a 3 ans et demi. Ma mère m'a dit qu'il était tout content. Il chantait car il avait une photo à me montrer. C'était celle de son école avec sa maîtresse, ses copains et ses copines. Mais à la porte, une surveillante a dit à sa collègue qui avait laissé passer Yanis avec la photo « C'est quoi ça? Donne-le-moi, c'est interdit. » Ma mère n'a pas supporté sa façon de parler et lui a dit ce qu'elle pensait. Mon fils est arrivé au parloir en pleurant. J'avais la rage, j'ai voulu tout casser. Et là, mon fils m'a dit « Maman, c'est pas grave ». Il parlait doucement et il m'a dit que la prochaine fois, il la cacherait et la dame méchante ne la trouverait pas. Ça m'a fait rire et ça m'a calmé de voir un enfant de 3 ans et demi sans le comprendre et savoir qu'il évite le pire pour sa maman par son intelligence et son sourire. Là, j'ai demandé mon transfert, car ça devient urgent, surtout pour eux. Normalement, ça ne doit pas tarder. Sûrement que j'irai à Fleury. Mais je m'en fous. Une prison reste une prison. Comme je dis, le transfert, c'est une balade. Et le mitard, c'est du repos. Je serais dégoûtée de ne plus vous écouter. Mais le cœur est avec vous tous. Je continuerai à vous écrire en attendant d'être là. Et quoi qu'il arrive, on les emmerde haut et fort. Là, je suis en train de vous écouter comme chaque vendredi. J'ai entendu la lettre de Malek Kider. Je le salue. Et t'inquiète, ils ne me feront pas peur. Et je me battrai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Malgré que nous sommes entourés de moutons. Par contre, c'est Kaoutar qui est parti à Rennes. Moi, je ne suis pas jugée, mais je vais bientôt dégager d'ici. J'attends l'accord du juge. En attendant, je les emmerde jusqu'au bout et je revendique mes droits, que ça leur plaise ou non. Voilà, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Soussou.
Donc, on a reçu d'autres lettres hyper récemment, là, la semaine dernière, qui racontent encore des histoires et des problèmes qu'elle a à l'atelier avec ce Lévi. Et ça ne s'arrêtera pas. Et forcément, de toute façon, à partir du moment où elles sont en prison, elles sont en danger. Et peut-être encore un peu plus parce que du coup, en fait, Kaoutar et Soussou, l'enquête interne qu'elles ont provoquée
à Versailles,
en écrivant au contrôleur des prisons sur un système de privilèges qui régnait à la prison, et cette enquête interne qui a abouti à la mise à pied du directeur Gonsalves pour traitement de faveur, C'est quoi qu'il a encore au cul?
Pour trafic.
Recel.
Non, recel, ça, c'est les filles.
C'est
les
deux, c'est mais trafic de puces, enfin de.
Enfin, vente à des prisonnières, dons d'argent, il a filé de l'argent, système de privilèges, etc. Et que la presse s'est amusée à remettre tout sur le dos d'une nana qui était Emma, qui avait le profil pour, parce que c'était déjà l'appât du gang des barbares, donc une femme qui joue de sa séduction. Mais ça concernait pas du tout Kema, ça concerne une petite dizaine de détenus de Versailles qui acceptent de rentrer dans ce rapport-là avec le directeur, qui acceptent aussi, par exemple, si le directeur leur demande d'aller casser la gueule de Kaoutar, parce que c'est ce qui s'est passé. Et ça concerne plusieurs nanas. Et ça aurait pu concerner Kaoutar, parce que c'est vraiment ça qu'il lui propose, le directeur, c'est ce système-là, quand il lui dit « Travaille pour moi, et je vais te laisser en cellule toute seule, et puis peut-être même après, je te filerai des trucs, etc. » Et qu'ils couchent ensemble ou qu'ils couchent pas ensemble avec Emma ou avec toutes les autres nanas, on en a rien à foutre, parce que c'est ce qui est accepté, c'est ce rôle-là dans lequel ce pouvoir-là en place de l'administration te met. Et du coup, tu l'acceptes et du coup, tu deviens un rôle intermédiaire entre tout le reste. Et après, et ce qui fait aussi une prise de pouvoir, parce que du coup, ces nanas-là, dont Emma et dont d'autres nanas, elles n'ont pas du tout été classes parce qu'elles ne se sont pas contentées d'avoir des faveurs, en vendant ce qu'elles voulaient d'ailleurs, leur cul ou pas. Elles ne sont pas contentées de ça. Elles ont aussi utilisé ça pour en foutre plein la gueule aux autres prisonnières, c'est-à-dire et de se faire du fric sur elles, et de prendre le pouvoir et de se permettre de leur péter la gueule.
Et après, bon, il y a quelque chose que tu as dit sur la question du fait que c'est des gens qui sont éventuellement en danger. Effectivement, nous, on ne prend pas non plus cette histoire juste comme un symbole. C'est aussi parce que c'est pour les deux, et plus particulièrement Soussou, ça craint. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on est dans une émission... aussi sur les prisons, on trouve chaque année des centaines de personnes pendues en prison.
Et en danger parce que la matonnerie est un corps constitué, un corps cohérent, et qu'elle va se retrouver avec Kaoutar, actuellement est à Rennes. Elle est à Rennes, mais elle est avec des matons qui ont très bien compris et connaissent le dossier de Kaoutar, savent très bien que... Elle a tout fait pour emmerder le directeur à Versailles, etc. Évidemment que les matons sont solidaires de ça. Évidemment que le directeur de Rennes est solidaire de ça. Et dès que le petit bruit médiatique là de cette histoire, qui a pas fait non plus beaucoup de bruit, mais enfin, il y a eu quand même quelques articles un peu à droite à gauche.
Il y a plusieurs unes. Hein.
Voilà. Voilà. Et dès que ça va tomber, c'est évident. C'est évident qu'il y aura une pression supplémentaire sur Kaoutar. Donc il y a aussi toute cette histoire. C'est aussi, on en parle parce que voilà, c'est cette histoire. Il faut pas qu'elle reste. Comme ça.
Et voilà, bah vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur le 89.5 de Radio Dio. Donc ça, c'était l'émission de l'Envolée qui a été enregistrée à Radio Canu donc le week-end dernier dans le cadre du festival du son contre la prison. Donc voilà, et on a trouvé quand même intéressant de la repasser parce que voilà, à travers ces deux histoires, Kaoutar et Soussou, qui sont deux histoires singulières, mais qui sont quand même assez emblématiques et révélatrices de tout ce qui se passe en prison. Voilà, ça aborde plein de thèmes différents, notamment le travail et l'exploitation du travail en prison, l'exploitation des détenus, la psychiatrie et tout le système dégueulasse qui va avec, le cachetonnage des gens, etc. Tout le manque de solidarité aussi entre les détenus, et ce manque de solidarité qui est lié à un système mis en place par l'administration pénitentiaire qui se base sur des privilèges, des passe-droits. Bon, là, il y a un cas extrême à Versailles, voilà, l'espèce de Gonsalves là, qui prend quelques détenus, qui les utilise, qui en leur filant de l'argent, des puces de téléphone, etc. Et qui empêche ce système, empêche toute solidarité. Et voilà, c'est divisé pour mieux régner. On connaît le refrain, quoi. Donc voilà. Et je voulais revenir à ce truc, justement, c'est par rapport à cette histoire-là. Il y a le contrôleur général des prisons. On était assez sceptique, on en avait parlé ici, on était assez sceptique sur son rôle. Bah, il se trouve que là, après enquête, bon, il a quand même réussi à mettre à pied un directeur, ce qui est quand même pas mal. Oui, autre chose qu'on voulait dire, c'est justement un truc intéressant, c'est juste à travers toujours ces deux histoires, il y a aussi le sens qu'ont ces émissions-là, les émissions comme la nôtre, les émissions comme L'Envolée qui est diffusée sur Paris. Et ce qui est intéressant justement, c'est la lettre d'Omar, justement solidarité au mouvement de Kautar et Soussou, donc Omar qui aboie d'Arcy. Omar Topelhadj, pour revenir sur Omar Topelhadj, c'est celui qui s'est évadé avec Christophe Kider il y a 2 ans, je crois maintenant. Et donc ouais, voilà, ce détenu Omar, donc il répond par rapport à ça, il lance un mouvement lui à Bois d'Arcy de son côté, refus de plateau. Et voilà, et justement nos émissions, elles servent à ça, elles servent à vous mettre en lien les uns des autres. Et quand il y a une lutte quelque part, et ben voilà, elle peut être reprise ailleurs. Et voilà, et nous modestement, voilà, on est rediffusé à Corba. Si quelque chose passe à Corba, les gens de la Talo peuvent le savoir et vice versa. Voilà, il y a pas d'autres ambitions que ça, quoi. C'est relayer vos luttes, qu'elles soient individuelles, collectives, qu'elles prennent n'importe quelle forme, un combat juridique, hein, une bagarre plus rentre dedans, voilà, c'est nous, on sert à ça. Et voilà, et justement Omar, lui, je finis là-dessus, il y a quelques temps, il a écrit des lettres à l'envolée où il lance une sorte d'appel à tous les détenus, à tous les gens de l'extérieur, des gens comme nous, pour se fédérer, s'organiser, essayer de monter une sorte de syndicat de détenus, pour justement être plus efficace, parce que on est peu nombreux, on est dispersés, et voilà, faut à un moment donné essayer de s'organiser, faire des choses. Donc là, les lettres, on les a pas, on n'aura pas le temps de les lire, mais on va en reparler. En tout cas, les gens à l'extérieur, ils suivent cette histoire. On sait qu'à l'intérieur, dans plusieurs prisons, ça réfléchit, ça cogite, voilà. Avec l'extérieur, on essaye de voir un peu ce qu'on pourra faire avec cette histoire de syndicat. Donc voilà.
À savoir que syndicat, lui, il l'appelle une association pour l'abolition de la prison, quoi.
Ouais.
Qui fédérerait tous les collectifs en France et les gens qui sont dedans et qui
ont envie de se battre, hein, pas les petites merdes qui se plient pour un petit paquet de cigarettes et qui se plient aux doléances d'un directeur pervers. Je dis ça sans jugement, hein, attention.
Oui, voilà, c'est ça, on dirait bien que c'est sans jugement.
Absolument, oui.
Donc,
Si c'est la merde en prison, c'est à cause des balances, faut le dire, et des gens qui se font manipuler, quoi.
Ah, c'est pas moi qui le dis.
Entre autres.
Donc c'est bon,
on peut enchaîner. Ouais.
Alors en plus, vous n'avez pas de chance, vu qu'on a prévu un contenu de ouf. On met même pas de musique, on enchaîne comme des bourrins. Donc là, on voulait revenir sur... ça part d'un article qui est paru dans le Progrès local, donc à Saint-Étienne, le 26 janvier là, 2011. C'est les surveillants, le syndicat des surveillants FO pénitentiaires qui s'indigne de la vétusté et de l'insalubrité à la maison d'arrêt de la Talaudière. Et en gros, on a entendu dire par des bruits de couloir que ça avait un peu... fait germer l'idée dans la tête de certains détenus de dire « Ok, si c'est même les surveillants qui le disent, nous, on pourrait porter plainte au sujet des conditions de détention qu'on subit. » Donc voilà, ça nous a donné envie de nous pencher un peu là-dessus. Donc déjà, je vais revenir vite fait sur cet article du Progrès du 26 janvier. Donc CFO qui dit... alors il y a une photo, ouais, effectivement, la Talo, c'est horriblement glauque. Donc il y a une photo de l'intérieur de la Talo, c'est glauque. Et puis ils disent qu'il y a des conditions de détention indignes, que les cellules sont d'un autre temps, etc.
Les grottes, non, c'est pas
les
ça.
Grottes, voilà, ils disent, ils les appellent des grottes, etc. Donc oui, c'est vrai. Hein. Je sais pas trop ce qui leur a pris à ces surveillants d'un coup de dénoncer ça, parce qu'en même temps l'article dit attention, ils ne défendent pas les prisonniers, mais ils disent quand même que c'est des citoyens comme les autres, et que là c'est un petit peu abusé de les faire vivre là-dedans. Et je voulais citer quand même cette phrase de Thierry Gidon, délégué interrégional de Force Ouvrière, donc un syndicat de Mâton, qui dit « Quelles sont les priorités de la paix ?» On voudrait bien le savoir. Donc je rappelle que les priorités de la paix, c'est la sécurité. Voilà, donc on le dit régulièrement, de toute façon, une prison, pour que ça fonctionne, faut que ce soit sécuritaire, et ce sera toujours la priorité, bien avant... les coups de peinture pour égayer les couloirs, qui de toute façon change rien à ce que c'est que l'enfermement. Bref, voilà. Et puis, en voyant cet article, on se demande un peu pourquoi FO fait cet article, à part, pour demander à ce qu'il y ait, pour bouger un peu les rénovations à la Talaudière. Bon, c'est pas plus mal. Et bref, comme je disais, ça a donné l'idée à quelques petits malins. Ils se sont dit, mais si même FO dit que les conditions de détention à la Talo sont indigne, nous, pourquoi on ne porterait pas plainte pour mauvaises conditions de détention? Donc on a déjà parlé de gens qui ont fait ça, donc je voulais rappeler vite fait un peu comment ça s'est passé ailleurs. Voilà, il y a deux exemples. Le premier exemple, c'est un avocat de Rouen qui s'appelle Étienne Noël, qui fait partie de l'OIP, l'Observatoire International des Prisons, qui lui s'est spécialisé dans la défense des détenus et donc sur leurs conditions de détention et sur ce qui se passe en prison, et qui essaye en fait de montrer les responsabilités de l'administration pénitentiaire. Voilà, et lui, son but, c'est un peu que les avocats en général se bougent là-dessus. Et donc lui, il se bouge sur la prison Bonne Nouvelle, super nom pour une prison, à Rouen. Donc en gros, en 2005, c'est le premier coup qu'il fait, enfin là-dessus, sur les histoires de conditions de détention. Donc c'est un détenu qui, soutenu par le maître Étienne Noël, porte plainte pour conditions dégradantes portant atteinte à la dignité humaine. Donc eux, ce qu'ils ont demandé, donc c'est au tribunal administratif qu'ils ont porté plainte. Enfin, qu'ils ont fait cette procédure, parce que je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment une plainte, bref, on s'en fout. Donc, ils ont demandé une indemnisation pour préjudice moral, donc une indemnisation en fric, et à ce que l'administration soit contrainte à rénover ses bâtiments. Donc, pour le premier truc, eh ben, le tribunal leur a donné raison. Donc, le détenu, il devrait bénéficier de 3000 euros d'indemnisation pour le préjudice moral subi pour mauvaise condition de détention. Voilà, donc ça, c'est un arrêté qui a été rendu par le tribunal administratif de Rouen le 27 mars 2008. Par contre, le tribunal administratif, il a dit non, on n'est pas du tout en mesure de forcer une administration à rénover ses locaux. Voilà. Et depuis, bah, à Rouen, il y a d'autres détenus qui ont essayé... soutenus toujours par maître Étienne Noël et qui ont, je crois que ça a marché, hein, qui ont obtenu aussi des indemnisations pour mauvaises conditions de détention, enfin conditions de détention dégradantes portant atteinte à la dignité humaine. Voilà. Ensuite, il n'y a pas si longtemps et plus près que ça, à Lyon, il y a toujours le tribunal administratif qui a condamné l'État à indemniser deux anciens détenus de la prison Saint-Paul, donc qui est fermée maintenant. Qui ont touché 2000 et 4000 euros pour respectivement 13 et 26 mois de détention, toujours pour indemniser le préjudice moral lié à des conditions de détention caractérisées par l'insalubrité et la surpopulation. Voilà, donc ça a été plaidé par un avocat qui s'appelle Maître Sylvain Cormier. C'est bien de le savoir parce que je pense que s'il y a des gens que ça inspire et qui ont envie de suivre ce truc... C'est toujours bien de savoir quels sont les avocats, parce qu'ils sont super rares, qui se bougent là-dessus. Donc je rappelle, maître Sylvain Cormier, pardon, à Lyon, et maître Étienne Noël à Rouen. Voilà. Donc en gros, pour dire comment ça marche cette histoire, en fait il y a un code de procédure pénale et d'autres codes aussi qui renferment toutes les lois et réglementations de comment on doit détenir des gens en prison. Et donc, en fait, ces lois, elles sont systématiquement bafouées, hein, pour plein de raisons, parce que, de toute façon, la prison, c'est pas fait pour être un hôtel. Donc, en gros, si vous voulez porter plainte par rapport à vos conditions de détention, déjà, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de commencer par contacter son avocat ou un avocat qui est motivé par ce genre de choses. Ça sert à rien de le faire tout seul, je pense. Je pense que c'est pas mal de lui décrire les conditions de détention qu'on subit, éventuellement contacter d'autres assos pour leur décrire les mêmes choses et obtenir du soutien. Ensuite, les plaintes qui sont déposées, c'est auprès du tribunal administratif du lieu de détention. Et voilà, donc là, il faut montrer, enfin, soulever en quoi, par exemple, des articles du code de procédure pénale sont bafoués par les conditions de détention qu'on subit. Voilà. Alors, pour donner quelques exemples, l'encellulement individuel, il est inscrit dans la loi. Donc, après, sous certaines réserves, etc., etc. Donc, on peut se bouger là-dessus. Sur la salubrité et la propreté des bâtiments, on sait que ça laisse très souvent à désirer. Sur, y a des normes qui définissent de quelle lumière les détenus doivent bénéficier et de quelle aération ils doivent bénéficier. Donc, on sait que, pareil, c'est la catastrophe là-dessus. En général, dans les cellules, on voit rien et l'aération est plus que pourrie. Il y a eu beaucoup de trucs aussi sur les toilettes, parce que les toilettes, elles sont dans les cellules en général et elles ne sont pas séparées du reste de la cellule. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas souvent de ventilation spécifique pour les toilettes. Il n'y a pas souvent de véritable cloison pour les séparer du reste. Il n'y a pas souvent de couvercle sur les toilettes. Donc sur tous ces trucs, on peut se baser pour dénoncer ces conditions.
Ça peut être cause, ouais, voilà, cause de maladies. Voilà, les matières fécales, ça peut causer des maladies pulmonaires, etc. Enfin, bref.
Voilà.
Petite parenthèse médicale.
Donc dans ce passionnant code de procédure pénale, si vous avez un stylo sous la main, je vous invite à regarder les articles D83, D349, D350, D89, etc. Donc après ça, ce qui s'est passé dans les deux autres cas de plainte là dont je vous ai parlé, c'est que le juge du tribunal administratif, il mandate des experts qui vont venir voir en prison, faire une expertise, voir comment c'est. Et après, la délibération du tribunal se basera entre autres là-dessus. Et donc à rappeler, il existe aussi maintenant le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Monsieur Delarue, enfin c'est toute une institution, et c'est pareil, c'est pas mal aussi de s'adresser à lui pour qu'il vienne foutre le nez sur comment ça se passe en tôle. Voilà, donc tout ça, ça fait des conseils pour si des gens veulent se bouger. Moi je voulais dire, j'ai déjà dit en fait, les conditions dites normales par la loi de détention, elles sont systématiquement bafouées. Déjà, le code de procédure pénale, ce qu'il dit, c'est que le service public pénitentiaire, il doit assurer le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Donc déjà, nous, c'est ce qu'on cesse de répéter, c'est qu'enfermer quelqu'un, déjà, on peut se demander si c'est le respecter et respecter sa dignité. Donc à partir de là, bon... Enfin, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Bref, je sais pas si j'étais claire là-dessus.
Si.
Donc voilà. Donc pour conclure sur ce sujet, poser ses plaintes, déjà ça peut servir à récupérer un peu de sous. Donc ça peut être utile pour certains. Surtout que la prison, elle enferme beaucoup plus souvent des pauvres que d'autres, et que la prison, on l'a déjà dit, elle appauvrit complètement, donc à la limite, si on peut gagner un peu de fric, c'est pas mal. Il faut savoir que ces procédures, souvent, elles durent super longtemps, des années et des années, quoi. Elle peut permettre de dénoncer un peu publiquement ce qui se passe en prison, c'est une manière comme une autre. Elle peut permettre aussi de s'allier avec des gens pour porter un peu une parole publique sur ce qui se passe en prison et passer par la justice. Alors après, ça peut paraître bizarre aussi de passer par la justice, qui est exactement la même institution que celle qui enferme des tonnes de gens. Enfin, il y a aussi des trucs qui posent question là-dedans.
Ça, faut pas l'oublier pour pas se faire d'illusions non plus, quoi.
Voilà.
Ça peut marcher comme ça peut être un coup de pied dans l'eau, quoi. Oui. Coup d'épée dans l'eau.
Et puis aussi, ça peut rapporter du fric, et puis ça change pas tant que ça le système pénitentiaire dans son ensemble, quoi. Et même si ça peut foutre la pression à des prisons pour améliorer les conditions de détention, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, on le sait par plein d'exemples, parfois avoir une cellule repeinte, ça change pas qu'être enfermé, c'est l'enfer, quoi. Enfin... Voilà, nous on donne ces infos parce que on trouve intéressant que des gens puissent s'en saisir et en faire ce qu'ils veulent. Mais nous, ça nous pose question de porter plainte pour les conditions de détention.
En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est ça fait chier l'administration en général. Ils aiment pas bien quand il y a des plaintes déposées contre eux, quand on ose remettre en cause et en plus par la justice. Leur rôle, quoi, en tant qu'institution, quoi.
Voilà, donc nous, on n'est pas soutien juridique, ni juriste, ni avocat, ni rien. Mais en tout cas, on peut au moins faire circuler les infos, si vous nous les demandez, des infos un peu pratiques, mettre les gens en contact avec les assos plus compétentes là-dessus, avec des avocats peut-être qui seraient motivés plus que d'autres, etc. On a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé.
Ouais. Il y a ce truc, aussi que de plus en plus les gens, après c'est mon analyse personnelle, mais il y a de plus en plus, parce qu'il y a des assos qui soutiennent, il y a l'OIP, des associations comme ça, d'où l'intérêt de prendre des avocats proches de l'OIP parce qu'ils connaissent les démarches aussi. Et il y a de plus en plus de détenus ont recours à la justice pour dénoncer leurs conditions de détention. Et pour essayer de les améliorer. Alors moi, je redis, c'est encore mon analyse, mais je le vois que dans le fait que il y a, comme il y a moins de mouvements, voire plus de mouvements collectifs, comme il y a eu une certaine époque dans les années 70, 80, tout ça, eh ben, on est obligé de, voilà, la seule institution qui, le seul recours qu'on a pour essayer de faire bouger, c'est souvent la justice, et ça marche plus ou moins bien. Et juste, je voulais revenir sur d'autres trucs, c'est qu'il y a plein de droits que vous avez à l'intérieur, des droits aussi banals que le fait de pouvoir s'habiller correctement, le fait de s'habiller comme vous voulez, c'est-à-dire plus porter l'uniforme, le fait d'avoir des colis de Noël, le fait d'avoir droit accès à la presse, le fait d'avoir le droit de correspondre avec qui vous voulez, enfin plein de droits qui améliorent quand même, qui ont amélioré dans l'histoire voilà, les conditions de détention, ça a été obtenu grâce à des mouvements collectifs et des mouvements, des gens sont montés sur les toits, il y a des prisons qui ont cramé pour ça. Donc voilà, c'est pas des humanistes qui sont arrivés et qui ont dit oh tenez, bon, ils ont obtenu ces choses en faisant des choses voilà, en se bougeant collectivement. Et du coup, comme il n'y a plus trop ça en ce moment, et ben voilà, on fait recours, on fait appel à la justice, quoi. Enfin, moi, c'est mon analyse. Je ne sais pas si c'est vrai, mais...
Je suis d'accord. Et je crois que David, au fin fond du hall d'entrée, est d'accord. Et ouais. Je voulais rebondir sur un exemple, mais en fait, on en parlera une autre fois. C'est, par exemple, à la maison d'arrêt de la Talo, dans les cabines de parloir, donc où on va visiter les détenus, il y a des murets qui séparent les détenus des gens qui viennent les voir. Et ça, c'est illégal depuis 83, par exemple. Et ça bafoue, par exemple, le droit de pouvoir serrer dans les bras quelqu'un que tu viens voir, entre autres. Et... il y aurait moyen, c'est une idée comme ça, de se bouger là-dessus, et il y aurait moyen de se bouger autant du point de vue juridique que de plein d'autres.
Oui, parce que là, pour le coup, c'est illégal, quoi. Là, la paix, comme souvent, ne respecte pas sa propre loi, quoi.
Voilà, donc c'est un détail qui est loin d'en être un, en plus. Et voilà, bref, c'est une perche lancée en cette fin d'émission. Si vous voulez en parler, ou si elle a envie de se bouger là-dessus, on pourrait en reparler lors d'une prochaine émission.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut en profiter pour rappeler l'adresse, notre adresse, si vous voulez nous écrire.
C'est parfait, quelle belle transition. C'est moi qui l'a dit.
Ouais, parce que. Ouais.
Alors voilà. Donc écrivez-nous à Émission Papillon, chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42 002 Saint-Étienne, CEDEX 1.
Voilà.
On va finir l'émission.
Ouais, on est en train de déborder là. Donc ouais, je voulais juste dire un petit message de la part de Soso Anabil. Elle te fait une grosse bise, elle est pas là aujourd'hui. J'en profite pour
elle travaille trop.
Voilà, j'en profite pour te dire la même chose et voilà, un grand salut à
pareil, et pareil et à Tristan. Tristan dans le hall qui dit pareil et moi aussi, je te passe un grand bonjour.
Voilà, et puis à tous les autres hein.
À tous les autres bien sûr. Bon voilà. Courage.
Et absolument. Rediffusion
aujourd'hui on est le 6 février, l'émission a été faite en direct et la rediffusion sera le 24 février. Absolument. Sur Radio Dio à midi, c'est un jeudi. Et voilà. Nous on se retrouve le premier dimanche de mars à 17h30.
Voilà, salut à tous et comme disait Kautar dans sa lettre, force, courage, détermination et patience.
Voilà, on pense à vous.
Cellule au premier étage.